franceinter.fr.
Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, un drapeau bleu-blanc-rouge sur le cercueil et un crayon papier. Image forte de la cérémonie d'hommage à Jean d'Ormesson en ce moment même aux Invalides. Il était un antidote à la grisaille des jours. Sa légèreté n'était pas le contraire de la profondeur, dit le président de la République. Ilana Mor-Youssef nous raconte la cérémonie dans un instant. Un autre président, ancien, a salué ce matin l'autre grand mort de la semaine, Sarkozy, sur Johnny. Un pan entier de nos vies disparaît, nous l'entendrons. Brexit, la phase 1 est derrière nous. Les 27 à la Grande-Bretagne sont enfin tombés d'accord sur les conditions du divorce. Pas de poste frontière en Irlande. Londres devrait payer une belle part de la facture. Invité de ce journal pour commenter cet accord, le député européen Jean-Marie Cavada. Nous irons aussi à Ramallah. Le Hamas a décrété ce vendredi jour de rage. Quel climat dans les territoires. Claude Guibal en direct. Ailleurs, en Orient et dans le monde musulman, des manifestations ce matin en Malaisie, en Indonésie et en Turquie. Dans ce journal encore, Airbnb, il y aura une taxe de séjour à payer, comme à l'hôtel. La SNCF, qui admet des failles importantes après la grosse panne de dimanche dernier à Montparnasse. Et puis la météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Bruno.
De la neige en montagne, des giboulées ailleurs.
Oui, la neige va continuer de tomber sur tous les massifs montagneux cet après-midi, sans oublier les hauteurs du Morvan. Partout ailleurs, le temps sera instable avec un régime de giboulées, de pluie et neige mêlée, de neige ou de grésil. Et puis côté température, les maximales marqueront une baisse sensible, comptez 4 degrés à Metz, à peine 5 degrés dans la capitale, 6 à Dijon, 7 à Lyon, 9 à Bordeaux. Ce sera plus d'eau autour de la Grande Bleue avec des valeurs comprises entre 12 et 15 degrés.
Et plus de détails à la fin de ce journal. Vous êtes les bienvenus dans le journal de 13h.
France Inter.
Les adieux aux yeux bleus avant Johnny, demain Jean d'Ormesson ce matin, avant la Madeleine et les bikers sur les Champs-Élysées pour le rocker, la cathédrale et la cour d'honneur des Invalides pour l'académicien. Dans les deux cas, les adieux se font en présence du président de la République, Emmanuel Macron.
Il n'était pas un lieu, pas une discussion, pas une circonstance que sa présence n'illumina. Il semblait fait pour donner aux mélancoliques le goût de vivre et aux pessimistes celui de l'avenir. Il était trop conscient des ruses de l'histoire pour se navrer des temps présents. Et sa conversation, elle-même, était si étincelante qu'elle nous consolait de tout ce que la vie, parfois, peut avoir d'amer. Jean d'Ormesson fut ainsi cet homme entouré d'amis, de camarades, offrant son amitié et son admiration avec enthousiasme, sans mesquinerie. Ce fut un égoïste passionné par les autres.
L'hommage d'Emmanuel Macron à Jean d'Ormesson, génie national. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour Bruno.
Vous avez assisté à cette cérémonie aux Invalides. Image forte, je le disais dans les titres, ce drapeau bleu-blanc-rouge sur le cercueil de l'académicien et ce crayon papier.
Oui, c'est un crayon papier qu'Emmanuel Macron, à la fin de son discours, a déposé sur le cercueil de Jean d'Ormesson. En fait, dans son discours, il a évoqué Jean d'Ormesson parlant de l'instant de sa mort. Malraux, disait-il, voulait un chat près de son cercueil. Moi, je voudrais un crayon, ni épée d'académicien, ni grand croix de la Légion d'honneur, un simple crayon à papier. Le président est donc, dès qu'il a fini de parler, il a traversé la cour et il est allé déposer ce crayon sur le cercueil de Jean d'Ormesson. Le cercueil était posé directement sur le sol, dans la cour d'honneur des Invalides, balayée par un vent glacé. 150 personnes environ ont assisté à cette cérémonie. Il y avait là les anciens présidents de la République, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Valéry Giscard d'Estaing, lui, a assisté uniquement à la messe qui a eu lieu un instant avant dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Et puis, il y avait également les présidents des deux assemblées, une partie du gouvernement et bien sûr les académiciens. Après l'éloge funèbre du président, le pianiste Carole Beffa a interprété un concerto de Mozart accompagné de l'orchestre de la garde républicaine. Puis, le cercueil a quitté la cour des Invalides, suivi par la famille de Jean d'Ormesson et par le président de la République et son épouse.
Ilana Mor-Youssef en direct des Invalides avec Stéphane Beaufils. Vous le disiez, Nicolas Sarkozy était dans l'assistance. Et avant d'aller aux Invalides, l'ancien président de la République est allé se recueillir ce matin avec son épouse Carla devant la dépouille de Johnny Hallyday au funérarium du Mont Valérien. Quelques mots d'hommage.
Je voudrais dire combien Carla et moi pensons à sa famille, à Laetitia qui a veillé sur lui, quelles que soient les difficultés ou les aléas de la santé, et à tous ses enfants. Je les avais mariés, oui. C'est un mariage qui a duré quand même plus de 20 ans. Mais c'est un pan de nos vies qui disparaît. Comme ça, tout d'un coup, brutalement, à cause de la maladie. Ça va au-delà du chanteur, ça va au-delà de la musique. C'est un personnage qui comptait dans la vie des Français.
Nicolas Sarkozy sur BFM TV, le grand adieu à Johnny, le grand hommage populaire, c'est à partir de demain midi, la dépouille qui descendra les Champs-Élysées. 5 à 700 motards, bikers accompagneront cette dépouille, la foule, les officiels, les people. Le risque terroriste, on imagine le préfet de police de Paris assez concentré. Dispositif de sécurité, 1500 policiers et gendarmes. Dispositif, promet le préfet, qui permettra la proximité, la chaleur populaire. Johnny sera ensuite inhumé à Saint-Barth, lundi, en fin de matinée. C'est là qu'il avait sa ville, la Jade. Commentaire de Michel Polnareff sur sa page Facebook à propos de cette inhumation loin de la métropole. Je trouve étrange qu'on rende impossible à ses fans de lui montrer à quel point ils sont attachés à lui. Quant à Jean d'Ormesson, il sera incinéré dans l'intimité. Sa fille Héloïse, éditrice, a raconté hier soir dans l'émission de François Bunel sur France 5 qu'il a achevé samedi dernier son dernier livre. Extrait du manuscrit, un extrait qui a été lu hier à la télévision. Que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours, et la mort elle-même ne peut rien contre moi. Voilà, ce sont les tout derniers mots écrits par Jean d'Ormesson moins de 3 jours avant sa mort. Si le Brexit était une Coupe d'Europe de football, on aurait achevé ce matin le premier tour, la phase de poule, pas plus. Mais c'est déjà un pas. Un an et demi après le vote des Britanniques, l'Union Européenne et la Grande-Bretagne se sont mises à peu près d'accord ce matin sur les conditions du divorce. Il y avait principalement 3 questions. Quelle facture la Grande-Bretagne veut-elle payer ? Theresa May va répondre à certaines de ces questions. La facture, quel sort pour les citoyens européens en Grande-Bretagne ? Et verra-t-on le retour de post-frontières entre les deux Irlandes ? Voilà les 3 questions, voilà des éléments de réponse dans la voix de la Première ministre britannique, Theresa May.
Nous avons travaillé très dur cette semaine. Comme vous l'avez vu, cela n'a pas été facile. Je suis très enthousiaste à l'idée des prochaines négociations concernant notre future relation. Pour parler des échanges commerciaux, de la sécurité, de notre future relation que j'imagine positive et ambitieuse dans l'intérêt de tous. L'accord que nous avons conclu garantit les droits des 3 millions de citoyens de l'UE qui vivent au Royaume-Uni et du million de Britanniques qui vivent au sein de l'Union. Par ailleurs, après d'âpres discussions, nous nous sommes à présent mis d'accord sur le règlement financier qui sera juste pour les contribuables britanniques. Nous garantissons également qu'il n'y aura pas de frontières dures en Irlande du Nord. Je suis optimiste quant à nos discussions à venir.
Voilà, la première ministre britannique Theresa May ce matin à Bruxelles. On va détailler les conditions de cet accord. L'invité de ce journal est le député européen centriste, président du mouvement Génération Citoyen, Jean-Marie Cavada. Bonjour monsieur.
Bonjour à tous.
On va détailler encore une fois en un mot. C'est un bon accord pour vous, le député européen ?
C'est un bon premier pas. De là à chanter victoire, oui, et à mettre le drapeau blanc et les colombes sur les bâtiments européens et sur la Chambre des communes ou au Ten Downing Street, certainement pas. Et d'ailleurs, on y reviendra probablement en détail.
Quentin Dickinson, les détails, c'est avec vous. Bonjour Quentin.
Bonjour, bonjour à tous.
En direct de Bruxelles, voilà le récit des détails avec au fond en fil rouge cette question, est-ce que l'Europe sort gagnante ou pas ?
Eh bien personne ne le reconnaîtra officiellement ici, histoire de ne pas humilier inutilement la partie britannique, mais ce sont bien les 27 qui ont mené la négociation depuis les débuts il y a 6 mois et jusqu'à ce jour, qu'il s'agisse du choix des 3 priorités, des autres têtes de chapitre, du calendrier ou de la méthodologie. Donc les Européens obtiennent tout ce qu'ils pouvaient espérer atteindre à ce stade intermédiaire de la négociation. On relevait cependant ce matin que les Européens renonçaient à exiger de Madame May le paiement de la facture du déménagement de l'autorité bancaire européenne et de l'agence des médicaments de Londres vers le continent. Le seul dédit du bail de l'une de ces deux agences atteint les 500 millions d'euros. On peut donc considérer qu'il s'agit là d'une concession de la part des Européens. Et en tout cas, l'ambiance ici est bien meilleure que depuis quelques semaines, comme le reconnaît volontiers le négociateur en chef côté européen, Michel Barnier.
Le progrès que nous avons traduit aujourd'hui dans ce rapport conjoint va nous aider dans la seconde phase des négociations. D'abord, en réglant de manière précise les droits des citoyens et la question financière, nous pourrons désormais nous concentrer sur les enjeux de la future relation de manière plus sereine.
Mais pour être clair, il ne s'agissait aujourd'hui que d'atteindre un accord politique qui en lui-même constitue un progrès quantifiable, mais fruit d'un compromis qui reste incomplet. C'est la condition pour que puissent démarrer des pourparlers de la seconde phase, c'est-à-dire celle qui sera consacrée à définir les futures relations qui ne seront plus que commerciales entre le Royaume-Uni et l'Europe des 27. Mais ces pourparlers-là se dérouleront en parallèle avec la négociation de la première phase déjà en cours, qui doivent aboutir à la rédaction du traité de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne d'ici à octobre 2018. Après cela, eh bien, s'ouvrira la dernière phase, qui est celle de la ratification parlementaire et de la promulgation de ce traité.
Quentin Dickinson en direct de Bruxelles. Jean-Marie Cavada, quand Quentin nous dit qu'au fond, cette négociation s'est faite sur les termes européens. Vous êtes d'accord avec cela? On est allé plutôt sur le terrain européen.
Mais c'est quelque chose d'étrange et de très positif que de remarquer, pour imiter les titres des livres de Jean d'Ormesson, extrait d'Aragon d'ailleurs, c'est une chose étrange et quand même très positive, c'est que les 27 qui ont tant de mal à s'entendre sur certains sujets et qui même ne s'entendent pas, eh bien là, on trouvait à faire bloc, si vous voulez, pour créer une force politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième qu'il faut souligner, on n'a pas toujours l'occasion d'être, comment dirais-je, admiratif. Je veux souligner le caractère absolument remarquable de la négociation conduite par Michel Barnier, qui à ce titre méritera de rentrer dans les livres de l'histoire de l'Europe, parce que c'était vraiment très difficile et il révèle là un caractère qu'on ne lui a pas toujours prêté, mais qui me donne confiance. Donc oui, les 27 obtiennent l'essentiel pour l'instant de ce qu'ils souhaitent.
Avec cette impression, Jean-Marie Cavada, qu'au fil des semaines et des mois, au fond, les 27 étaient de plus en plus forts de leur côté et la ministre britannique de plus en plus affaiblie.
Moi, je suis très dur sur Madame May, non pas pour...
On va aller à Londres dans un instant.
Oui, non pas pour ce qu'elle est, elle est ce qu'elle est, mais pour la façon dont elle travaille et pour la façon déjà dont elle s'était comportée dans le gouvernement précédent, c'est-à-dire pro-Brexit en douce et faisant semblant quand même de ne pas vraiment l'être, un être ambigu qui, de mon point de vue, je m'en excuse, je ne veux pas frapper, comment dirais-je, les Britanniques qui vivraient en France ou ceux qui seraient épris d'amour pour les en France pour elle, mais franchement, c'est pas un personnage de très haut niveau. Et son gouvernement est de guingois. Il y a à l'intérieur de la Chambre des communes une dizaine de députés de l'Ulster qui vont lui mener la vie dure. Enfin, bref, on voit bien que ce gouvernement boite. Mais là, en tout cas, elle reçoit une bouffée d'oxygène politique et ce sera bon pour la deuxième étape des négociations.
Ah bon, on va voir ça à propos de bouffée d'oxygène politique. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Londres. Elle sort gagnante ou perdante de cet accord, Theresa May, Antoine?
Ça dépend du point de vue. Elle parle, elle, d'un compromis bénéfique. Le contribuable britannique, explique Theresa May, y trouvera son compte. Ce premier pas vers un accord de libre-échange va permettre, aux yeux de la chef du gouvernement, de faire des économies et de consacrer plus d'argent à l'éducation et à la santé. Mais en face, Aaron Banks, le cofondateur du collectif Leave EU, qui a milité pour la sortie de l'Union européenne, s'étrangle déjà. La première ministre, dit-il, a trahi le pays et les 17,5 millions d'électeurs qui ont voté pour le Brexit. En fait, sur le fond, la Grande-Bretagne s'est effectivement pliée à toutes les demandes de Bruxelles. La facture, d'abord, qui pourrait tourner autour de 45 milliards d'euros, c'est ce que dit à l'instant le porte-parole du gouvernement à Downing Street. La question des expatriés, puisque les étrangers qui vivent sur le sol britannique pourront, en cas de conflit, s'appuyer pendant 8 ans sur la jurisprudence européenne. Et puis, Theresa May cède enfin, effectivement, sur la question de l'Irlande. C'est écrit noir sur blanc, il n'y aura pas de frontières physiques. Et là aussi, toutes les solutions restent à trouver.
Jean-Marie Cavada, est-ce que tout risque, disons, de déstabilisation en Irlande est écarté?
Vous savez, je suis très prudent. Il s'agit de phénomènes historiques, comme votre question le suggère. Il ne faut pas oublier que les 10 députés, qui sont les héritiers lointains du pasteur Ian Paisley, des orangistes et de la violence que la guerre de religion sur le continent européen avant les années 70, elle a commencé en 68, en août 68, a amené, on n'avait plus vu ça, si je puis dire, depuis la révocation de l'édit de Nantes. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux.
Et achevé depuis une vingtaine d'années maintenant.
Oui, et c'est vivace cependant encore. Alors, est-ce qu'on aura la sagesse de ne pas laisser s'enflammer les foies religieuses? Je l'espère. Mais de toute façon, ça n'est pas fini, cette affaire de frontières. Pardon, encore quelques secondes.
Oui.
Ça n'est pas fini parce que, dans le pire des cas, on sera obligé d'avoir le même contenu juridique pour essayer de délimiter le territoire que pour les importations-exportations du traité que nous avons avec le Canada, le CETA. Et donc, vous voyez que c'est loin d'être fini.
Jean-Marie Cavada, je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser une question sur l'audiovisuel public. Vous avez été un des journalistes vedettes de l'audiovisuel public du temps de la marche du siècle. Vous avez été PDG de cette maison Radio France. L'audiovisuel public en prend plein la figure en ce moment. L'expression « honte de la République », dit-on, a même été prononcée. Est-ce que les radios et les télés publiques méritent tant d'avanies?
Écoutez, je crois que franchement, il faut distinguer ce qu'est la radio dans l'audiovisuel public, dont, à mes yeux, à part quelques petits incidents de ci, de là, qui s'appellent la vie, marche bien, les résultats sont bons. Mmh. Le service et la mission, la spécificité est assurée sur les antennes de Radio France, et je l'espère aussi sur les antennes de Radio France Internationale, qui, de mon point de vue, d'ailleurs, devraient être rattachées. Si on faisait une réforme, j'en dirai un mot dans un instant. La télévision, c'est autre chose. On ne me fera pas croire qu'avec un budget de 2,7 milliards, on ne peut pas trouver 50 millions d'économies et qu'il soit nécessaire d'engager un bras de fer avec le gouvernement sur ce sujet.
Donc quand les mots sont durs sur le fonctionnement et la gouvernance de l'audiovisuel public, vous rejoignez plutôt le président de la République.
Vous savez, les mots sont les mots.
En tout cas pour la télévision.
Les mots sont les mots, mais pour la télévision, une profonde réforme s'impose. Et cette réforme doit être à trois niveaux. Elle doit être au niveau de la structure de nomination des dirigeants. Elle doit être aux structures des relations.
Plus de CSA.
Il y a plusieurs versions possibles. Vous savez, c'est le moins mauvais système qu'il faut choisir. Il n'y a pas de bon dans l'absolu parce que les systèmes valent ce que valent les hommes et les femmes qui sont dedans. Et c'est pas toujours fameux ces temps-ci. Et une deuxième chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut assurer la pérennité du financement. Si vous étiez allemand, le dirigeant de la chaîne de radio allemande sait quel budget il aura dans 4 ans. Si vous étiez britannique, vous sauriez quel argent vous avez jusque dans 5 ans. Il faut arrêter de faire brinque-baller par le système financier. Et puis, le système financier et ses entreprises. Et puis, le troisième niveau, c'est l'organisation de la télévision qui n'est pas bonne. Il y a des rassemblements à faire. Et moi, je suis favorable à rassembler des métiers qui doivent vivre ensemble parce qu'ils ont le même rythme. La radio à la radio, la télé à la télé.
Autrement dit, pas de rassemblement au-delà de ça.
Peut-être, mais ça coûtera plus cher que ça ne rapportera d'économie. Donc, où est l'intérêt de la réforme?
Merci Jean-Marie Cavada d'être
Merci
venu
à vous surtout.
Dans les studios de France Inter. Nous revenons à l'actualité internationale et nous allons dans les territoires palestiniens. C'est vendredi, jour de prière pour les musulmans et le Hamas dans les territoires voulait aussi en faire un jour de rage après la décision américaine de reconnaître Jérusalem capitale d'Israël. Claude Guibal, vous êtes en direct avec Jérémy Thuil au checkpoint de Ramallah, la ville dont on redoutait qu'elle s'embrase. Quelle ambiance, que pouvez-vous nous raconter à 13h17?
Oui, effectivement, nous sommes au nord de Ramallah, dans ce checkpoint qui s'appelle Dissio et où quelques petites centaines de personnes sont rassemblées depuis la fin de la grande prière du vendredi. Vous savez, ce vendredi que le Hamas a appelé être un jour de rage. Eh bien, ici, il y a des pneus qui brûlent et vous entendez peut-être derrière moi les tirs de ces grenades lacrymogènes tirées bas sur la foule. Alors, tout à l'heure, les haut-parleurs de la mosquée Abdel Nasser, la plus grande mosquée de Ramallah, ont tonné contre l'Amérique qualifiée de menteuse. Vous savez que les États-Unis sont censément les médiateurs du processus de paix israélo-palestinien. Ces haut-parleurs, on les a aussi entendus tonner contre Donald Trump. Trump, tu n'as rien compris. Jérusalem sera éternellement palestinienne. Là où nous nous trouvons, eh bien, Palestiniens et armée israélienne se font face à face. Les soldats de Tsahal ont pris position sur cette colline qui est juste en face de nous et sur laquelle s'étend la colonie de Beit El. 2500 colons juifs environ vivent ici avec ce mur en béton qui se construit tout autour. Jérusalem est toute proche, hein, vraiment à peine 10 kilomètres. Et pourtant, il faut savoir que beaucoup de Palestiniens qui sont ici n'ont jamais pu s'y rendre. Alors, perdre l'espoir de voir Jérusalem comme capitale, c'est vraiment une ligne rouge pour eux, une ligne qui transcende les factions politiques, des politiques d'ailleurs, dans lesquelles les Palestiniens ne se retrouvent plus, partagés entre la colère, la résignation et le désespoir.
Claude Guibal en direct de Ramallah, et on entend bien grâce au micro de Jérémy Thuil que c'est pas tout à fait un vendredi comme un autre et que l'ambiance est très très houleuse. Merci beaucoup Claude. Ce matin, Emmanuel Macron lançait un appel au calme et à la responsabilité de tous dans cette région. Et le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, était l'invité de France Inter. Question autour de la position et peut-être de la solitude américaine.
Il faut maintenant que les esprits se calment. J'entends les uns et les autres, y compris M. Tillerson, dire tout ça va se faire dans le temps. L'heure serait la négociation. Mais les États-Unis, qui jusqu'à présent avaient pu avoir un rôle de médiation dans ce conflit israélo-palestinien, aujourd'hui s'en sont un peu exclus. Ils sont tout seuls, en fait. La réalité de ce matin, Monsieur Demorand, c'est que les États-Unis sont seuls. Ils se sont isolés sur cette affaire.
Qui pour les remplacer, Jean-Yves Le Drian, les États-Unis, aujourd'hui?
Il faudrait...
La France, point d'interrogation.
La France est en situation de responsabilité. Elle n'a jamais été autant entendue dans le monde. La France peut agir, mais la France ne peut agir seule.
Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian ce matin avec Nicolas Demorand sur France Inter, parmi les lieux où il y a eu des manifestations ce vendredi, Istanbul en Turquie, également la Malaisie, l'Indonésie et l'Afghanistan.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Et même Bruno Duvic, pour de vrai. Le Conseil constitutionnel devait répondre ce matin à une question importante à propos du fonctionnement de la justice en France. Les magistrats du parquet dépendent, vous le savez, du gouvernement. Leur patron, c'est le ministre de la Justice. C'est une entorse au principe de séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est contraire à la Constitution? Les sages étaient saisis par les syndicats de magistrats. Bonjour, Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Eh bien, pour le Conseil, ce lien hiérarchique entre le parquet et le gouvernement ne pose pas de problème. En tout cas, il est conforme à la Constitution.
Oui, pour le Conseil constitutionnel, les textes en vigueur assurent une conciliation équilibrée entre le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire et les prérogatives du gouvernement. Parmi ces prérogatives, il y a le fait de donner des instructions générales de politique pénale pour que la loi soit appliquée de la même manière dans toute la France. Sous-entendu, avec des procureurs indépendants, pourraient apparaître des inégalités de traitement entre juridictions. Quant aux garanties sur l'indépendance des procureurs, les syndicats étaient unanimes à dénoncer leurs insuffisances, puisque les procureurs, vous l'avez dit, sont nommés, peuvent être sanctionnés ou déplacés par le ministère de la Justice. Eh bien, le Conseil rappelle, lui, que leur parole est libre à l'audience et que depuis la loi Taubira de 2013, le garde des Sceaux ne donne plus d'instructions dans les dossiers individuels et qu'ils doivent mener les enquêtes à charge et à décharge. Par cette décision laconique, les sages balayent les arguments des magistrats qui dénoncent le soupçon du poison. Il revient maintenant au gouvernement de faire la réforme constitutionnelle promise pour changer le statut des parquets, mais avec un Sénat resté à droite et cette décision du Conseil constitutionnel, le gouvernement n'est pas encouragé ni à se presser ni à faire une réforme ambitieuse.
Merci Sarah Guibaudot. Autre décision du Conseil ce matin, l'élection de Manuel Valls comme député de l'Essonne est bien confirmée. Il avait gagné d'un cheveu au printemps dernier. Son adversaire de la France Insoumise avait déposé un recours devant le Conseil, recours rejeté. En revanche, le Conseil constitutionnel annule deux élections, celle de Lénaïque Adam, député En Marche en Guyane, et Yann Boucard, les Républicains, dans le territoire de Belfort. L'actualité politique ce week-end, c'est encore deux questions. Laurent Wauquiez sera-t-il élu président du parti Les Républicains dès le premier tour dimanche? Le chiffre de la participation des militants sera aussi regardé de près. En Corse, les nationalistes vont-ils confirmer leur succès au deuxième tour des élections territoriales? Ils étaient très largement en tête avec plus de 45% des voix au premier tour dimanche dernier, mais près d'un électeur inscrit sur deux était resté à la maison. Vous êtes client Airbnb? Eh bien, vous allez peut-être devoir payer un peu plus cher désormais. Les plateformes de location de meublés touristiques, c'est comme ça que ça s'appelle, vont être pleinement soumise à la taxe de séjour, comme les hôtels désormais. Hélène Fili, c'est un vote ce matin à l'Assemblée.
Oui, pour les députés, il s'agit de faire rentrer les plateformes de réservation dans le rang. Airbnb ne collecte la taxe de séjour que dans une cinquantaine de villes, à Britel uniquement à Paris aujourd'hui, mais dans une vingtaine de communes à partir de l'année prochaine. Toutes, en fait, promettent déjà d'étendre cette collecte. Elles ne sont pas contre le principe, mais contre les modalités de la nouvelle mesure, explique Timothée Deroux, le président de l'Union nationale pour la promotion de la location de vacances et directeur général d'Abritel au Meuhet.
Nous ne sommes pas défavorables à la collecte par les plateformes parce que c'est un service qu'on rend à nos propriétaires, mais nous sommes défavorables à une distorsion de concurrence. On ne voit pas très bien pourquoi la location de vacances serait le seul secteur de l'hébergement touristique à payer une taxe de séjour au pourcentage.
Au pourcentage, c'est-à-dire entre 1 et 5% du coût hors taxe de la nuitée. C'est ce pourcentage qui pose problème parce qu'il variera d'une commune à l'autre avec un plafonnement beaucoup trop compliqué, regrettent les plateformes. Pour les hôteliers, il s'agit juste de rééquilibrer. Laurent Duc de Lumy, l'Union des métiers de l'hôtellerie.
80% de la taxe de séjour en France est collectée par l'hôtellerie et sert tout le monde. Donc je refais le parallèle, 640 000 chambres hôtelières, 1 200 000 hébergements de location de courte durée. Vous pouvez comprendre qu'il est absolument anormal que ce soit les clients de l'hôtellerie qui collectent et assurent la promotion pour les clients qui ne collectent pas.
La mesure doit entrer en vigueur au 1er janvier 2019, le temps que la Direction Générale des Finances Publiques actualise le mode de calcul et le taux décidé par chaque commune.
Est-ce que des têtes vont tomber à la SNCF après la grosse panne de dimanche dernier? Le patron de SNCF Réseau, Patrick Jeantet, annonce une profonde réorganisation et reconnaît qu'il y a eu des failles importantes. Très peu de trains sont en circulation aujourd'hui entre Metz et le Luxembourg, 1 sur 4 selon la SNCF. Les contrôleurs exercent leur droit de retrait après l'agression d'une de leurs collègues. On critique souvent le système éducatif français, récemment encore, à propos du niveau des élèves de CM1 en lecture. Eh bien, il y a parfois des progrès. C'est le cas dans la lutte contre le décrochage scolaire. De moins en moins de jeunes sortent de l'école sans le CAP, le bac, ni le moindre diplôme. C'est une étude du CNESCO, l'organisme qui est chargé d'évaluer notre système éducatif. Moins de décrocheurs, mais il en reste encore 100 000 chaque année. Alors comment amplifier ce combat? Eh bien l'effort doit porter sur la prévention. Écoutez Nathalie Mons, la présidente du CNESCO, elle donne des pistes.
Notre première préconisation en urgence, c'est vraiment d'être très attentif aux élèves qui sont à risque. Ça veut dire qu'il faut donner aux équipes dans les établissements les moyens de bien les identifier. Par exemple, des logiciels qui permettent de recenser tous les signes du décrochage, des élèves qui vont à l'infirmerie, qui font pas leurs devoirs, qui sont absents. Toutes ces informations sont souvent en fait entre les mains de personnes différentes et on a rarement une vision globale de l'élève. Il faut aussi que les établissements suspendent le plus possible les exclusions, c'est-à-dire que lorsque les élèves ont des problèmes, très souvent le conseil de discipline exclut l'élève de l'établissement. Non, c'est un premier pas finalement vers le décrochage et surtout il faut aussi faire le lien avec les familles, par exemple par SMS, dès qu'il y a le moindre problème. Le rôle des familles pour lutter contre le décrochage scolaire est tout à fait crucial.
Et les détails sur ce rapport, vous les trouvez sur franceinter.fr. Nathalie Mons était au micro de Solène Lehen. Que reste-t-il du « en même temps » Le gouvernement et la majorité au Parlement mènent-ils une politique uniquement de droite? Le débat avait eu lieu à l'automne à propos de la politique économique. Il pourrait monter dans les semaines à venir à propos de la politique migratoire. Les députés ont adopté la nuit dernière une disposition qui facilite le placement en rétention des migrants. Pour mémoire, les centres de rétention, c'est là qu'on retient ceux qui doivent être expulsés du territoire. Les détails de ce texte avec vous, Mathilde Demy, pourrait faire polémique ce texte. Hein.
Et il fait déjà polémique, Bruno. C'est un changement total. Total de philosophie, dit Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui parle de, je cite, « tournant politique déplorable en termes de respect des libertés fondamentales ». Ce texte déposé par les députés constructifs vise à préciser les critères pour lesquels des personnes ayant déjà demandé asile auprès d'un autre pays européen, ce qu'on appelle les Dublinés, seraient enfermées avant même que l'on ait statué sur leur droit à rester ou non en France. Cette rétention préventive, appliquée s'il existe un risque de fuite, fait bondir les juristes qui se posent déjà la question de la constitutionnalité du texte. Il s'agit de se mettre en conformité avec le droit européen, répondent les députés constructifs et le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Oui, mais avec les mesures les plus restrictives du droit européen, précise Jacques Toubon, qui rappelle qu'en France, seules les personnes en situation irrégulière sont enfermées pour exécuter leur expulsion. Expulsion compliquée aujourd'hui en Europe, car la majorité des Dublinés sont rentrés via l'Italie et la Grèce qui croulent sous les demandes des autres pays. Cette nuit, les députés France Insoumise et ceux de la gauche démocrate ont qualifié ce texte de virage sécuritaire et de rétention de confort. Premier round, Bruno, avant le projet de loi sur la politique migratoire prévu dans 3 mois.
Un dernier mot pour vous dire que le Téléthon a 30 ans. La première édition avait eu lieu en 1987. La 31e à partir de ce soir. Pour les dons, ça ne change pas. 36, 37 ou téléthon.fr.